Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être présents ce soir à cette conférence qui clôture notre cycle 2011-2012. On aura peut-être l'occasion de vous dire un petit mot par après sur la suite du programme. Alors, j'avais envie en introduction de remettre quelques jalons, de vous rappeler qu'au départ du séminaire, Jacques Lacan nous disait de l'angoisse, de ce séminaire sur l'angoisse, qu'il serait un point de rendez-vous où nous attendait tout ce qu'il en était de son enseignement antérieur. Il nous annonçait donc un séminaire qui rassemble et qui est pivot également de ce qui va advenir par la suite. Explorant ce qu'il en est de l'angoisse pour le sujet parlant, il effectue notamment un complet renversement, rappelez-vous, par rapport à la visée d'une psychologie classique. En effet, de la peur qui était dite avoir un objet en psychologie classique, la peur devient ce qui peut, le cas échéant, tromper et qui n'a pas forcément un objet réel. Alors que, et c'est ce que Lacan nous amène de nouveau, l'angoisse, nous dit-il, est ce qui ne trompe pas et ce qui n'est pas sans objet. Ce qui constitue vraiment un renversement par rapport à une certaine psychologie. À travers ce séminaire, Lacan va déplier et articuler les liens entre désir, angoisse et fantasme. Il va surtout nous amener au seuil de la constitution du concept de l'objet A. Je dis concept de l'objet A, mais étant bien entendu que dans la clinique, il a une fonction tout à fait essentielle. Ce n'est pas qu'un concept purement théorique. Et ce concept de l'objet A, cet objet A, comme reste de l'opération signifiante par laquelle un sujet se fonde. Nous clôturons donc ce cycle de conférences cette année par une première exploration de ces objets qui sont selon Lacan au nombre de 5. Objet oral, objet anal, l'objet regard, l'objet voix et l'objet phallique. C'est sur ce chemin que nos conférenciers de ce soir vont nous emmener. Alors je vous les présente. Véronique Robert, qui est à ma droite, interviendra en nous commentant la séance 17 du séminaire L'Angoisse, sous le titre de « Angoisse et orgasme ». Véronique Robert est psychanalyste à Braine-le-Comte et à Bruxelles. Elle est membre de l'école de la cause freudienne et elle est également responsable thérapeutique au Courtil dans un groupe d'enfants et adolescents. Et Jean-François Lebrun, lui, interviendra à sa suite sous le titre « Amour et désir chez l'obsessionnel » en nous commentant la séance 23. Donc vous voyez qu'on fera un petit saut dans les séances. Et Jean-François Lebrun travaille, lui, comme psychanalyste à Mons, comme consultant à l'hôpital psychiatrique de Bon Secours et comme intervenant au Courtil également. Donc je passe la parole à Véronique Robert pour nous parler de angoisse et orgasme.
Voilà. Je vous remercie de m'avoir une nouvelle fois mis au travail sur un séminaire de Lacan. Et donc, voilà, je vais essentiellement tourner autour donc, de ce chapitre 17. Où est-ce que je suis ? Qui s'intitule « La bouche et l'œil ». Alors, donc Lacan nous dit d'emblée, nous rappelle encore une fois que procéder à partir de l'angoisse revivifie toute la dialectique du désir. Si nous voulons comprendre ce dont il s'agit dans la fonction du désir et y apercevoir la fonction de l'objet, nous devons repérer ce qu'il appelle le point d'angoisse. Dans ce chapitre, Lacan insiste d'une part sur la non-coïncidence entre le point du désir et le point d'angoisse. et d'autre part sur le renversement entre ce qui se passe entre le sujet, l'objet et l'autre, au niveau oral et au niveau phallique. Nous trouvons l'objet oral. Attends, je vais vous faire un petit. Je vais reprendre un petit schéma que Lacan fait dans son séminaire. Nous trouvons donc l'objet oral, l'objet anal, l'objet phallique, scopique et le surmoi, l'objet voix. Voilà les différents objets. Et dans cette dialectique, il y a un objet qui n'est pas un objet, qui est la signification phallique. On voit là en haut, que Lacan met là en haut. Cet objet phallique, Lacan le situe au point de renversement, au point de bascule entre la demande à l'autre, la demande de l'autre et le désir. Donc c'est le point de renversement, le point de bascule. Vous trouvez ce schéma à la page 341 du séminaire. Alors, la psychanalyse qui a aperçu la fonction centrale du sexuel a été amenée de plus en plus à chercher dans la pulsion orale l'origine de tous les accidents dans la structuration du désir. Cette réduction de ce qui se passe au niveau de l'objet phallique à la pulsion orale voile et évite l'impasse du complexe de castration. Et donc, on voit que Lacan va reprendre ce qu'il en est au niveau de la pulsion orale, ce qu'il en est au niveau de la pulsion, enfin, au niveau phallique. Et puis, dans ce chapitre, il va travailler ce point-ci, ce point-là et ce point-là. Ces deux points ici, ces deux objets, on les laisse de côté pour cette fois-ci. Donc l'oral, phallique et scopique. Donc il va travailler ces trois objets-là et il va essayer de déplier où se trouve le point du désir, où se trouve le point d'angoisse. Alors... Ah oui, et ce qu'il nous dit, c'est que donc la psychanalyse, après Freud, a eu tendance à ramener tout ce qui se passe au niveau phallique au niveau oral. Et donc lui va reprendre ça pour bien différencier l'oralité du reste. Alors, le désir, Lacan nous apprend à le lier à la fonction de la coupure. Donc c'est ce qu'il va déplier. Le désir n'a rien à voir avec le manque qui, lui, est lié à la satisfaction. Donc Lacan va examiner ce qu'il en est de cette coupure et de ce manque au niveau oral, au niveau phallique et au niveau scopique. Alors, commençons par la coupure au niveau oral. Alors, Lacan donc va déplier que la coupure passe entre le sujet et son objet qui fait partie de lui-même, et non entre le sujet et l'autre. Donc Lacan déplie ce point de plusieurs façons. Par exemple, dans la succion, ce sont les lèvres qui fonctionnent, et les lèvres sont l'image même d'un bord, l'incarnation d'une coupure. Les lèvres aussi interviennent dans l'articulation signifiante, l'articulation labiale des phonèmes les plus fondamentaux. Maman, mama, papa, ce sont des coupures dans les phonèmes. Les lèvres sont l'objet de pratiques symboliques, lèvres percées, étalées, et de dysfonctionnements, s'embrasser, sucer son pouce, etc. La pulsion orale apparaît comme un ensemble de dysfonctionnements et de coupures. Quand un enfant suce son pouce, c'est une satisfaction hallucinatoire qui n'a plus rien à voir avec un besoin de nourriture. Lacan relève l'analogie entre le sevrage oral et le sevrage de la naissance. Il nous dit que la coupure est ailleurs que là où nous la mettons, c'est-à-dire entre l'enfant et la mère. La coupure se fait entre ce qui va devenir l'individu jeté dans le monde extérieur et ses enveloppes. Les enveloppes qui sont des parties de l'enfant. Donc on voit que la séparation se fait à l'intérieur de l'unité qui est celle de l'œuf. Or, ce qui spécifie le développement de l'œuf dans la presque totalité des mammifères, c'est l'existence du placenta. Placenta par lequel l'œuf, dans sa position intra-utérine, se présente dans une relation semi-parasitaire à l'organisme de la mère. Donc voilà, Lacan insiste sur le fait que, donc à la naissance, la coupure, ça n'est pas la coupure entre l'enfant et la mère, mais plutôt la coupure entre l'enfant et ses enveloppes, entre l'enfant et le placenta. Lacan poursuit en prenant ensuite l'exemple de l'ornithorynque, qui est un petit mammifère qui n'a aucun rapport placentaire avec l'organisme maternel. Et Lacan prend cet exemple de l'ornithorynque pour mettre l'accent sur la fonction de la mame. Voilà, je reprends ça. L'ornithorynque pond des œufs, œufs qui ont déjà vécu 28 jours dans l'utérus maternel. Ce que Lacan relève, c'est que ces œufs n'ont aucun rapport placentaire avec l'organisme maternel. Et pourtant, dit Lacan, la mame existe déjà. Elle se présente comme quelque chose d'intermédiaire entre le rejeton et sa mère. Le petit ornithorynque séjourne hors du cloaque après sa naissance dans un lieu situé sur le ventre de sa mère, appelé incubatorum. Il est encore à ce moment-là dans les enveloppes d'une sorte d'œuf dur, d'où il sort à l'aide d'une dent dite d'éclosion, doublé de quelque chose qui se situe au niveau de sa lèvre supérieure et qui s'appelle caroncule. L'important est ceci. Il semble que la mère de l'ornithorynque ait besoin de la stimulation de la pointe armée que présente le museau de son petit pour déclencher sa fonction. Les mammes d'ornithorynque sont en creux. Le bec du petit s'y insère. Le petit ornithorynque s'emploie à ce déclenchement qui paraît bien plus suspendu à sa présence et à son activité. Donc c'est la présence et l'activité du petit ornithorynque qui déclenche le fonctionnement de la mame qui est plaquée sur l'organisme de la mère. Pourquoi Lacan prend cet exemple-là ? C'est pour nous montrer qu'avant que n'apparaisse le placenta dans les organismes vivants, on voit le rapport nourricier se prolonger au-delà de la fonction de l'œuf. Nous avons donc une relation parasitaire où intervient cet organe ambocepteur qu'est la mame. De la même façon que l'enfant forme une unité avec le placenta, il y a ensemble l'enfant et la mame. La mame est en quelque sorte plaquée, implantée sur la mère. Alors, il y a bien sûr cette coupure entre la mame et le corps de la mère, entre le placenta et le corps de la mère. Mais il semble que Lacan insiste bien plus ici sur la coupure interne entre l'enfant et la mame. L'enfant est séparé de façon interne à la sphère de son existence propre. C'est ce qui lui permet de fonctionner structuralement comme objet A. Cette coupure interne, nous pouvons l'observer lorsque l'enfant en train de téter prend tout d'un coup un point de vue. Il regarde sa mère, puis s'écrase à nouveau contre le sein. Le regard vient là marquer une coupure de la soi-disant complétude de l'enfant avec le sein. L'enfant, donc en train de téter, consent là à interrompre une sorte de satisfaction pour prendre une vue sur l'autre, sur le désir de la mère et y rencontrer une pure énigme, le point d'angoisse. On ne sèvre pas l'enfant, il se sèvre lui-même. Et le point d'angoisse est sur le corps de l'autre, sur le corps de la mère. Donc Lacan a tout d'abord mis l'accent sur les lèvres comme bord, sur le placenta, sur la mame. Là, j'ai amené un petit exemple avec le regard qui fait coupure, lorsque le regard de l'enfant vers la mère qui fait coupure lorsque l'enfant est en train de téter. Donc, d'une part, il y a le rapport à la mame qui restera structurant pour la subsistance et le soutien du rapport au désir, le point du désir. Donc le point du désir, c'est le rapport à la mame. Et d'autre part, il y a le point d'angoisse. Le point d'angoisse où le sujet a rapport à sa mère, à son manque, à la possibilité de son manque. Donc le point d'angoisse au niveau oral est au niveau de la mère. Il est au niveau de l'autre, au-delà du lieu où s'est jouée la distinction de l'objet partiel. Donc le rapport à la mère est distinct de cette totalité organique dont le A se sépare et s'isole. Donc le rapport à la mère est distinct du rapport de l'enfant à la mame. Je vous ferai un petit schéma au tableau. Je peux peut-être déjà le faire. Donc, au niveau oral, nous pouvons schématiser la coupure et le désir de cette manière. Donc, vous trouvez une petite phrase. Une petite phrase dans le séminaire à la page 273. Le sujet se trouve en deçà du miroir de l'autre. Le désir fonctionne à l'intérieur d'un monde qui, quoique éclaté, porte la trace de sa première clôture à l'intérieur de ce qui reste imaginaire ou virtuel de l'enveloppe de l'œuf. Nous retrouvons ici la notion freudienne d'auto-érotisme. Donc, si on prend le schéma de Lacan, le schéma du miroir, on peut représenter ça comme ça. Donc, le sujet se trouve en deçà. Ici, on a le monde imaginaire, le monde virtuel, le miroir de l'autre. Le sujet se trouve en deçà du miroir de l'autre et le désir fonctionne à l'intérieur d'un monde qui, dit Lacan, quoique éclaté. Donc les objets sont éclatés. Donc on voit les objets, moi je les situe là. Hein? Quoi, les objets qui, quoique éclatés, portent la trace de sa première clôture à l'intérieur de ce qui reste imaginaire ou virtuel de l'enveloppe de l'œuf. Donc au miroir de l'autre, je ne vais pas vous refaire le dessin du schéma, vous irez voir, je ne sais plus dans quel séminaire, le séminaire 2 ou 3, il articule ça, 2 je pense. Mais donc par un système de miroir, on voit ici la trace de la première clôture, c'est-à-dire les objets qui sont enveloppés et qui donnent l'illusion d'une unité. Donc le désir fonctionne ici, en deçà du miroir de l'autre, dans un monde qui, quoique éclaté, porte la trace de sa première clôture. La première clôture, c'est l'enveloppe de l'œuf. Alors Lacan dit, nous retrouvons ici la notion freudienne d'auto-érotisme. Donc le désir fonctionne ici, d'après moi. Sujet, objet. On pourrait dire que c'est la mame plaquée sur le corps de l'autre. Alors, un autre schéma. Ça, je vais les faire. Vous voyez tous ici, ça va? Voilà. Au niveau oral, on peut représenter comme ça le sujet, l'objet. Et le manque de l'autre. Eh bien, Lacan situe le point d'angoisse ici, quand l'autre vient à manquer, et le point du désir ici. Vous trouvez ce schéma-là à la page 336. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'il dit à cette page-là. C'est en fonction. Donc, page 336. Donc, au niveau du rapport à l'objet oral, c'est en fonction de la dépendance à l'être maternel que se produit la disjonction du sujet AA, la mamelle, dont vous pouvez apercevoir la véritable portée que si vous voyez que la mamelle fait partie du monde intérieur du sujet et non pas du corps de la mère. Page 337. Alors, au niveau oral, Lacan fait deux petites remarques que je trouve intéressantes. Une première, c'est sur le vampirisme. Il dit que dans la succion, donc la langue a pour fonction d'aspirer, donc de vider par aspiration. Et dans ce mode de rapport à la mère, l'enfant se présente comme un petit vampire. Il se présente, mais il ne l'est pas, dit Lacan. Par contre, cette image du vampire révèle la vérité du rapport oral à la mère, à savoir la possibilité du manque, la possibilité du manque au niveau de la fonction maternelle, laquelle pourrait disparaître. Et il commente un deuxième point, c'est une petite phrase de Freud, l'anatomie c'est le destin. Il nous dit qu'il faut donner au mot anatomie son sens strict, son sens étymologique. Du latin dissection, du grec coupé à travers, anatomos. Le destin, c'est le rapport de l'homme à cette fonction du désir, à cette sépartition, et non pas séparation, donc cette sépartition qui est une partition à l'intérieur, qui structure et soutient le désir dès la pulsion orale. Alors, qu'en est-il maintenant de la coupure au niveau phallique? Alors, cette coupure au niveau phallique est appelée castration parce que c'est une image d'éviration qui fonctionne. Parce que la relation à l'objet, donc le désir, au niveau phallique, contient implicitement la privation de l'organe. Mais dit Lacan, castration, ce n'est pas le terme qui convient le mieux. Nous verrons pourquoi. Alors, au niveau phallique, l'autre est impliqué dans le désir. La coupure, contrairement à ce qui se passe au niveau oral, la coupure passe, donc au niveau oral, la coupure ne passe pas entre l'enfant et la mère, mais entre l'enfant et la mame. Au niveau phallique, la coupure passe entre le sujet et l'autre, entre l'homme et la femme. Et ce que fait Lacan dans ce chapitre, c'est resituer l'angoisse de castration au niveau de l'organe mâle. Il fait de la détumescence de l'organe, de sa carence, de l'évanouissement de la fonction phallique dans l'acte sexuel, le principe de l'angoisse de castration. Donc, l'angoisse de castration n'est au niveau d'aucun agent de castration, d'aucun autre proférant des menaces, d'aucune mère castratrice, d'aucun père interdicteur. L'angoisse de castration se situe au niveau de l'organe comme tel. On assiste donc au niveau phallique à un renversement du point du désir et du lieu de l'angoisse. Donc, je vais de nouveau vous faire un petit schéma. Ici, que vous trouvez à la page 337 aussi. Vous avez l'homme, vous avez la femme et vous avez le moins-fi. Lacan va situer le point du désir. Et il va situer là le point d'angoisse. Là où il y a le manque de l'objet. Donc ici, manque de l'autre et là, manque de l'objet. C'est là qu'il situe le point d'angoisse. Je vais mettre... Voilà. Non, ça va aller. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Vous, à la page 337, vous y retrouverez toute la dialectique que je vous ai appris à reconnaître dans la fonction moins phi, fonction unique par rapport à toutes les autres fonctions de A, en tant qu'elle est définie par un manque. Le manque d'un objet. Donc, l'homologue du point d'angoisse au niveau oral, l'angoisse liée au manque de l'autre, c'est l'orgasme lui-même comme expérience subjective, l'orgasme masculin qui se traduit par l'éjaculation, par une cession corporelle. La détumescence est une perte de tension qui aboutit à une satisfaction débarrassée du point d'angoisse. On peut saisir l'éjaculation précoce comme une façon d'aller au plus vite à la détumescence pour éviter le point d'angoisse. C'est aussi par rapport à l'angoisse qu'il faut lire également les aléas de ce qui n'arrive pas à la détumescence. La clinique nous montre la possibilité de la production d'un orgasme au sommet d'une situation angoissante, nous dit Lacan. Ainsi, par exemple, un rapport sexuel après une situation angoissante, un enterrement, un accident, une querelle. Ce n'est pas tant que l'acte sexuel vient apaiser l'angoisse, mais bien que l'acte sexuel vient tenter d'occuper le lieu de cette situation non subjectivée par le sujet. L'acte sexuel vient là retraduire en acte ce qui est impossible à subjectiver par le sujet, par exemple la mort. Alors, pour Freud, nous dit Lacan, il n'y a pas de plus grande satisfaction que l'orgasme. Pourquoi ? Parce qu'au fond de l'orgasme réalisé, il y a, dit Lacan, la certitude liée à l'angoisse. L'orgasme est la réalisation même de ce que l'angoisse indique comme direction du lieu de certitude. L'orgasme, dit Lacan, est de toutes les angoisses la seule qui s'achève réellement, qui a un point de cession réel. Les autres angoisses ne cèdent donc pas réellement. On peut... Pourquoi ? Il me semble que... les autres angoisses... ne trouvent pas dans le miroir de l'autre, dans l'autre, une réponse. Dans l'autre, ça ne répond pas. Alors, c'est ici, nous dit Lacan, que nous devons voir la source de l'énigme laissée par l'expérience freudienne, la butée de la fin de l'analyse. Il nous dit... Si le patient, à la fin de l'analyse, nous réclame le phallus que nous lui devons, c'est en fonction d'une insuffisance de notre part à distinguer la relation du désir à l'objet et le manque constituant de la satisfaction. Que veut-il dire par là ? Alors, il me semble qu'il essaye de faire la distinction entre l'illusion du désir et la certitude de l'angoisse. Alors, le désir est illusoire, car il s'adresse toujours ailleurs, à un reste constitué par la dialectique du sujet à l'autre. C'est le mirage, c'est le mensonge. Par exemple, dans la cure, on peut blablater tant qu'on veut, occuper le trou par tout ce qu'on veut. Ça apaise, mais si ce n'est pas corrélé avec l'angoisse, on peut blablater longtemps. Alors, où est la certitude ? Elle est là, nous dit Lacan, où surgit l'angoisse. Là où aucun objet n'est de nature à clore, par quoi que ce soit d'apaisant, la dialectique du sujet à l'autre et au réel. Nul phallus tout-puissant. Aucune satisfaction ne permet d'idéaliser quelque fermeture que ce soit. Autrement dit, il n'y a de satisfaction que sur fond de manque. C'est pourquoi Lacan écrira « S de grand tabaret ». à savoir la satisfaction due par l'être qui n'a de véhicule que le signifiant et qui rencontre l'incomplétude du signifiant. Une des fonctions que Lacan donnait à l'analyste était d'affronter le sujet à son angoisse, que le sujet donne son angoisse, de ne pas faire l'économie de ce moment crucial de sa subjectivité, où ça s'est scindé pour lui, où la coupure s'est installée dans son monde. Dans les théories qui veulent le bien du sujet, on veut éviter ce point. On réconforte le sujet, on bouche le trou. On dit, par exemple, dans le cas de l'homme aux cervelles fraîches, cas d'Ernest Chris commenté par Lacan dans la direction de la cure, donc dans les écrits, page 599, on dit à l'homme aux cervelles fraîches, « Vous ne volez pas les idées, vous n'êtes pas un plagiaire. » L'analyste nie la culpabilité et empêche l'analysant de la traduire comme une angoisse, de subjectiver l'angoisse de voler rien. L'angoisse de ne pas être véritablement dans l'autre, l'angoisse d'être un plagiaire, l'angoisse d'être un semblant. L'analyste empêche de donner à l'angoisse lieu d'être sur le corps de l'analyste. Par contre, si l'angoisse est subjectivée, les semblants commencent à devenir plus supportables. Car il n'y a que les semblants qui peuvent venir à cette place vide. Bon, voilà pour le niveau phallique. Lacan termine ce chapitre en s'interrogeant, en faisant quelques remarques sur ce qui se passe au niveau scopique. Alors, je vais vous faire encore un petit schéma. Alors, au niveau scopique, donc à la page 338, Lacan nous dit « Nous avons affaire à la puissance dans l'autre qui est le mirage du désir humain. » Ainsi, prenons un exemple. Il y a d'un côté la jubilation de l'enfant qui se reconnaît au miroir et de l'autre, l'interrogation de l'enfant qui se retourne vers l'autre et à qui il demande d'attester ce qu'il voit dans le miroir. D'attester que c'est bien lui. C'est que déjà là, l'enfant sait qu'il y a une illusion. Il sait qu'il y a un hiatus entre la jubilation liée à la reconnaissance et la quête du vrai sur son être. Il sait déjà là que la vérité sur son être ne peut qu'être médite, que le sujet ne pourra jamais dire la totalité, qu'il est en deuil de toute idée de totalité. Donc, au niveau scopique, je situerai quand même le point du désir là. Et le point d'angoisse là. Donc, dans la névrose, le sujet semble s'unifier dans le miroir. C'est un semblant. La négativité là-dedans, c'est « je suis un plagiaire, un semblant ». C'est moi et c'est pas tout à fait moi.
Alors,
Lacan nous dit que c'est cet effet de capture, de fascination du miroir, de l'œil comme miroir, que tentent de surmonter les mystiques. Les mystiques tentent de surmonter ce qu'il y a d'engluant dans une apparence qui n'est jamais conçue que comme apparence visuelle. Et il nous dit que dans la possession contemplative, le sujet est condamné à méconnaître qu'il ne s'agit que d'un mirage de puissance. Dans la contemplation, ce qui est recherché, c'est ce que Lacan appelle le point zéro. Le point zéro, représenté par Bouddha aux paupières abaissées, cette figure dans le visible, toute tournée vers l'invisible, qui nous préserve de la fascination du regard tout en l'indiquant. Ce point zéro annule l'objet du désir, le regard, annule le mystère de la castration et prend à sa charge le point d'angoisse. Le regard n'est pas absent, mais il est extrait du monde des apparences, tourné vers l'intérieur, présent au monde de l'intérieur. Et là, nous dit Lacan, le point d'angoisse et le point du désir coïncident. Donc là, j'ai inventé un petit schéma parce qu'il n'est pas dans le séminaire de Lacan, mais bon, je pense qu'on peut représenter les choses comme ça. Voilà. Donc, dans la contemplation, on pourrait dire le sujet, le lit, et voilà. On essaye de faire abstraction du monde des apparences. Et donc, le point du désir et le point d'angoisse coïncident.
Ben voilà, je vais m'arrêter là.
Ah oui, voilà. Eh bien, merci à Véronique Robert. Alors, on a pris l'habitude de lancer les questions à chacun des conférenciers au terme de la prise de parole du deuxième conférencier. Donc, Jean-François, je te passe la parole. Voilà.
Ça marche. Alors, amour et désir chez l'obsessionnel se décline côté amour en termes de surestimation et en termes d'inhibition ou de défense côté désir. Un amour idéalisé comme un désir inhibé, le dirige vers l'élu de ses pensées. Et donc, mon exposé tourne autour du chapitre 23. Alors, je vais vous en dire quelques mots de ce que Lacan en articule, du moins ce que j'en ai compris, et je terminerai mon exposé par le cas Henri. Bon, je repars un petit peu de choses que Véronique a abordées. Repartons de la conjonction de l'homme et de la femme. Le rapport de l'homme et de la femme, c'est aussi bien une absence de rapport. Et je vous lis ici le champ couvert par l'homme et par la femme, dans ce que l'on pourrait appeler au sens biblique leur connaissance l'un de l'autre, ne se recoupent qu'en ceci, que la zone où leur désir les porte pour s'atteindre et où ils pourraient effectivement se recouvrir se qualifie par le manque de ce qui serait leur médium, le phallus. Et donc, on a le schéma que Véronique a représenté en bas à gauche, là-bas. Le phallus, dans ce schéma, indique la modalité de présence du phallus comme une absence, comme ce qui manque. Donc, il n'y a pas, et c'est donc équivalent à un moins. Ici, dans ce séminaire, le moins phi se trouve désignifiantisé et désimaginarisé. Il ne relève plus du symbolique ni de l'imaginaire. C'est le phallus organe, et plus précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, une propriété de l'organe mâle qui est la détumescence. C'est le mâle qui se trouve embarrassé dans sa recherche de jouissance. Il rencontre un ne pas pouvoir. Et donc, comme dit Jacques Arnaud Miller dans son commentaire, c'est l'homme qui manque. Il apporte la mise et c'est lui qui la perd. La détumescence se trouve à la place de la castration. On peut dire que le désir de l'obsessionnel se structure d'une façon particulière par rapport à l'angoisse de castration. Pour échapper à l'angoisse de castration, dans son rapport à l'autre, il va réagir en déportant son désir, ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais revenons-en d'abord à l'organe. Si Lacan s'attache à cette particularité anatomique de l'organe mâle, il s'intéresse aussi aux autres particularités anatomiques. Et on passe à la fin de ce séminaire d'une conceptualisation de l'objet A comme visée du désir à une conceptualisation de l'objet A comme cause du désir. Ce sont les objets destinés à une séparation anatomique. Et il conceptualise cet objet donc, à partir des zones érogènes, qui sont les zones de bord du corps. Ce corps des zones érogènes dépasse les limites du corps-organisme pour empiéter sur l'autre, comme c'est le cas du sein, par exemple. À chacune des zones érogènes correspond une substance, un prélèvement corporel. Lacan élabore ainsi cinq formes de constitution de l'objet A qui interviennent dans la relation du sujet à l'autre. Hein, vous les avez représentées là. Ces cinq formes de l'objet A interviennent donc dans la constitution du sujet au lieu de l'autre. Bon, je passe l'objet oral puisqu'on l'a, on vient de l'approfondir là, et j'en arrive tout de suite au niveau anal. Voilà un objet bien particulier et qui en plus est appelé à jouer un rôle chez le sujet obsessionnel. À ce niveau, ce qui est dans l'autre, c'est quoi? C'est sa demande. L'autre demande au sujet l'objet anal. Cette demande en outre, remarque Lacan, se joue en deux temps. Je vous lis ici page 350. quelque chose en cet objet tourne. Il s'agit de la demande de la mère. Elle tourne. Garde-le, donne-le. Et si je le donne, où est-ce que ça va ? L'importance déterminante des deux temps de la demande, je n'ai pas besoin de la rappeler à ceux qui ont ici la moindre expérience analytique. En quoi ces deux temps sont-ils importants ? En ceci que le petit A en question est obtenu à la demande et il est admiré. Quel beau caca, dit Lacan. Mais le second temps de cette demande implique qu'il soit, si je puis dire, désavoué. Parce que ce beau caca, on apprend tout de même à l'enfant qu'il ne faut pas garder trop de relations avec lui. Ce qui est là, c'est à la fois de lui et pas de lui. Et donc, ces deux temps, de ces deux temps, le premier est agalmatique, c'est la galma. Tandis que le second, c'est paléa, en tant que donné, cadeau, voilà la brillance de l'objet anal. Et puis aussitôt, ça bascule dans paléa, c'est-à-dire la paille, la balle qu'on jette après en avoir extrait le grain, le déchet, ce qu'on jette. Et c'est avec cet objet que l'enfant, pour la première fois, a l'occasion de se reconnaître dans un objet. Voilà un objet qui le représente. Et ceci avant la symbolisation. Seulement, c'est un objet oui-non, hein, ces deux temps. Oui-non, de lui, pas de lui. Admiré, désavoué. Vous allez voir pourquoi cet objet prend une importance particulière chez l'obsessionnel. Mais on peut dire déjà que s'y raccroche le symptôme obsessionnel du doute, de l'ambivalence, de la balance entre précisément les deux valences de cet objet, une valence positive, une valence négative, de ses allers-retours. Songez par exemple à l'Homora, dans tous ces nombreux doutes ou ambivalences ou allers-retours, il se promène sur un chemin, il écarte une pierre pour je ne sais plus très bien quelle raison, il continue sa route et revient un petit peu après pour remettre la pierre au bon endroit, au même endroit. Voilà, il revient annuler ce qu'il venait de faire. Il y a une petite note quand même, très rapide, qui me paraît importante. Parce que la valence agalmatique, ça se rapporte quand même à la valeur donnée par l'autre. Et ici, Lacan évoque très rapidement l'ampleur des effets qui s'attachent à la relation agalmatique de la mère à l'excrément. Et donc, on voit là l'agalmatisation éventuelle par la mère ou pas de la dimension de cadeau avant qu'inévitablement cet objet bascule au déchet et au rejet. Bon, l'objet phallique, c'est ici l'introduction du désir sexuel dans le passage à l'objet A en tant qu'objet phallique. Le destin de la relation sexuelle, c'est la disparition, son aphanisis. Tout de même que l'objet anal, qui lui aussi vient à tomber comme un objet caduc qui tombe. Alors, chez l'obsessionnel, la fonction anale vient interférer sur le plan libidinal avec le désir sexuel. L'objet anal vient fonctionner au niveau phallique, il vient symboliser le phallus, il vient imager sa perte, la détumescence inhérente à la conjonction sexuelle. Devant l'angoisse de castration, vient se fixer un désir qui n'est rien d'autre que le désir de retenir, désir qui provient du niveau anal. En d'autres termes, face à l'angoisse de castration, de l'angoisse de castration, il résulte l'inhibition du désir. L'inhibition. Qu'est-ce que l'inhibition ? Freud décrit le mécanisme de l'inhibition dans son texte que Lacan commande dans ce séminaire, Inhibition, symptôme, angoisse. L'inhibition, c'est l'introduction dans une fonction d'un autre désir que celui que la fonction satisfait naturellement. C'est l'interférence sur le désir d'un autre désir. Chez l'obsessionnel, dans la fonction sexuelle, c'est le désir de retenir qui provient du niveau anal, qui interfère avec le désir sexuel. C'est une défense face au désir de l'autre. Et il en résulte l'inhibition du désir. Le sujet se défend ainsi de ce que le désir sexuel comporte, à savoir la confrontation avec le moins fi. Ainsi, dit Lacan, le petit A excrémentiel, cause du désir de retenir, fonctionne comme un bouchon, ainsi que le dit Lacan. C'est le bouchon qui produit l'inhibition. Il en résulte plus généralement chez ces sujets une inhibition à l'acte. Qu'est-ce qu'un acte ? On a une définition de l'acte ici dans ces pages. Nous parlons d'acte, dit Lacan, quand une action a le caractère d'une manifestation signifiante où s'inscrit ce que l'on pourrait appeler l'état du désir. Donc l'acte se trouve articulé au désir, à l'état du désir. Or, chez l'obsessionnel, le désir est précisément frappé d'inhibition. Donc, premier contournement opéré par l'obsessionnel pour éviter la confrontation avec l'abhéance de la castration, la fonction anale vient structurer le désir sexuel sous la forme d'un désir de retenir. Donc, sur le schéma en boucle, là, l'obsessionnel déporte vers le second objet à gauche, hein, anal, ce qui devrait se diriger vers la signification phallique. C'est le désir de retenir qui est déporté là. Il y a à cela un aspect complémentaire. L'autre maternel demande à l'enfant qu'il lui fasse une cession, comme dit Lacan, du verbe céder, le beau cadeau. Voilà qui rend compte de ce qu'on appelle l'oblativité chez le sujet obsessionnel. Ce rapport au fait de faire un cadeau, précisément, des dons. C'est la dimension du don qui vient boucher la question du désir de l'autre. À la question du désir de l'autre, l'énigme que pose la question du désir, le désir c'est le désir du désir, eh bien l'obsessionnel se soustrait, il y échappe en y répondant par un don. Un pas de plus, et on arrive à ceci, L'obsessionnel couvre le désir de l'autre par la demande de l'autre. Face à l'énigme de ce désir, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, qu'est-ce que tu me demandes ? Et on est bien reporté précisément là où la demande est dominante, à savoir au niveau de la demande anale. Là où l'objet cause est l'objet anal en tant que demandé. Pour couvrir le désir de l'autre, page 339, l'obsessionnel a une voix, c'est le recours à sa demande. Voyez quelles en sont les conséquences. Pour autant que l'évitement de l'obsessionnel est la couverture du désir dans l'autre par la demande dans l'autre, donc il couvre au niveau de l'objet phallique, il va couvrir ça par la dimension de la demande dans l'autre. L'objet de sa cause vient se situer là où la demande domine, c'est-à-dire au stade anal, où A n'est pas purement et simplement l'excrément, car c'est l'excrément en tant que demandé. Mais il y a un deuxième contournement, et l'obsessionnel va se déporter de l'autre côté, au niveau scopique. Il se constitue une position désirante en se déportant au niveau de l'image. Il se constitue comme ça un support narcissique. Et c'est ce que Lacan appelle la catégorie de la puissance. L'illusion de posséder quelque chose par le fait de la contempler, ce à quoi justement le schéma proposé par Véronique Robert montre ce qui n'est qu'apparence. Oui, mais je pensais à la façon que tu as de représenter ce qui n'est qu'apparence. Oui, c'est vrai.
Oui, parce que ça, c'est mystique.
Oui,
c'est
voilà.
La même contemplation. Oui. La contemplation des mystiques et la contemplation
oui.
Dans le lien
de la fait. Femme. Oui. Remarquez qu'ici aussi fonctionne la catégorie du don. Ce que le sujet offre dans le rapport à l'autre, c'est son image. Ce qu'il entend qu'on aime, dit Lacan, oui, tout à fait, c'est de lui une certaine image. Ainsi, tout ce qu'il fait, ce n'est jamais que donner comme image de lui à l'autre. Et à qui l'adresse-t-il, cette image ? À un partenaire également image. Il place l'autre féminin dans une position idéalisée. C'est un amour idéalisé qu'il entretient avec une dame, tellement idéalisé que cela équivaut à une négation de son désir. Voyez l'amour courtois. Mais cette catégorie de la puissance a un au-delà, qui est l'idéal du moi, qui prend souvent la forme d'une toute-puissance ou encore même du tout-puissant. En quelque sorte, l'obsessionnel croit toujours en Dieu en tant que tout-puissant, l'œil universel qui voit tout. Et c'est pour l'illustrer que je vais vous parler de ce cas 2 évoqué par Lacan. Évoqué dans les pages 345 à 348 et 354 à 355. C'est un cas du psychanalyste Ernest Jones, suivi au Canada, à Toronto. Et ça, ce cas date de 1913. Ce sujet a 24 ans, il est garçon de café et il consulte parce qu'il est sous l'emprise de telles obsessions et de contraintes en tout genre qu'il se retrouve complètement incapable de travailler. Et donc l'observation est un grand déroulé de toutes ces obsessions en tout genre. Il y a à la fois quelque chose, c'est un petit peu comme quand on prend le cas de l'Homora, il y a à la fois un côté très pathétique et en même temps un peu comique dans ses observations. Lacan en dit ceci, page 355. Il arrive qu'un sujet qui se développait très tôt comme un magnifique obsessionnel appartienne à une famille de gens dissolus. Le cas dont il s'agit est de ceux-là. Toutes les sœurs, et elles sont nombreuses, et la famille est nombreuse, la mère, la tante, les différents amants de la mère, et même, je crois, Dieu me pardonne, de la grand-mère, sont passés sur le ventre de ce petit gosse aux environs de 5 ans. Il n'en est pas moins un obsessionnel, constitué avec des désirs sur le seul mode où il peut arriver à les constituer, à savoir des désirs impossibles, en ce sens que quoi qu'il fasse pour les réaliser, il n'y est pas. Et l'obsession majeure et que le Christ pratique sur lui des actes pervers, des fellations. Voilà ce qu'il amène. Et il est envahi de toute une série d'obsessions de ce genre, qui ont à voir avec le Dieu Tout-Puissant, mais aussi des idées sexuelles. Et donc, on a chez lui une articulation entre le sexe, Dieu, la mort, la culpabilité, tout ça tourne sans arrêt. Bon, Henri, lui, il pratique un certain nombre de ces choses. Alors, qu'a-t-il fomenté comme désir impossible ? C'est très simple, il dirige toujours son désir vers des femmes qui ne sont pas libres. Plus exactement, il s'intéresse toujours à des femmes qui sont la femme d'un autre, cas freudien. Mais en particulier, il s'intéresse à la femme qui est celle de tous les autres, c'est-à-dire, il s'intéresse à des prostituées. C'est un sauveur de prostituées, comme dit Ernest Jones. Donc, il choisit comme dame de ses pensées une dame de petite vertu, et son rêve est de la ramener sur le chemin de la vertu, de la sauver de sa vie de turpitude. Et à chaque fois, c'est cette femme qui est celle de tous, voilà qu'elle devient pour lui l'unique. C'est la seule femme au monde qui compte pour lui. Le temps de la relation, jusqu'à la relation suivante, parce que ça tourne beaucoup. Et donc voilà un amour exalté. Il a une préoccupation constante de son organe. Et comme dit Jacques-Alain Miller de l'Homora, au fond, Henri est marié avec son organe. Il est obsédé par la peur de devenir impuissant, de perdre cette puissance. Et sa mère lui a glissé le truc, d'ailleurs, puisqu'elle lui a dit un jour que s'il avait une gonorrhée, ce qui est très fréquent chez lui, il deviendrait impuissant. Et il le devient. C'est à ce moment-là que la névrose éclate, d'ailleurs. C'est-à-dire, il rencontre une nouvelle copine, mais voilà que celle-ci lui fait penser à sa mère. Sa mère étant décédée 2 ans avant. D'où inhibition. C'est-à-dire que le désir pour sa mère vient se mettre devant lui, le désir incestueux, vient interférer avec le désir pour son amie. Devenu impuissant momentanément, il s'est trouvé alors envahi par toute cette série d'obsessions, et c'est alors qu'il est allé trouver Ernest Jones. Par rapport à l'impuissance, le patient développe toute une série de procédures. Et sa mère, d'ailleurs, femme légère, et qui sans doute devait être de ce métier-là aussi, avait tout simplement voulu faire de lui rien moins qu'un ecclésiastique quand il était enfant, donc après tout ce qu'il a vécu. Et lui avait dit que pour ce faire, il devrait se faire enlever les testicules. Donc on voit tout le temps cette histoire qui revient. Beaucoup d'obsessions obéissent à ce que Jacques-Alain Miller nomme des formules d'implication absurdes mais logiques de la forme « si, alors ». Un peu comme chez l'homo. Et donc, c'est toujours la même thématique. Si je ne sors pas de l'ascenseur, alors mon pénis sera coupé. Voilà une pensée obsédante qui lui revient et qui le contraint. De même, s'il ne revient pas sur ses pas pour relire le dernier article de journal, alors voilà qu'il va arriver à malheur à sa mère ou à sa maîtresse. S'il ne fait pas ceci ou cela, le Christ va faire une fellation à sa petite copine. Autre manifestation obsessionnelle, des commandements. À tout propos, le sujet fait des prières adressées au Christ. Il demandait à Dieu, par exemple, de ne pas devenir impuissant ou encore d'avoir une érection. Donc, il fait des prières pour ça. Il demande à Dieu, par exemple, d'avoir tout ce qu'il souhaiterait. Et compulsivement, il y a quelque chose qui vient interférer dans ses prières. Il fallait qu'il adjoigne ceci, tout ce qu'il souhaiterait. La vulve de ma mère qui surgit comme ça. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Donc c'est bien une contrainte de la pensée qui revient tout le temps. Autre prière. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, deviens sous la contrainte. Donne-moi aujourd'hui ton pénis pour que je joue avec. Donc cet enfant a subi ça, enfant. Là, il voyait le Christ partout. Quand il voyait quelqu'un manger un sandwich, lui venait cette idée, il donne à manger au Christ. Il était question d'un cheval à qui on donnait à boire, il ne pouvait s'empêcher de penser, c'est pour noyer le Christ. Lorsqu'il fume la fumée de sa cigarette, il croit souffler à la face du Christ. Le Christ est partout. Alors, c'est un bonhomme extrêmement superstitieux, on parle de Dieu, de la toute-puissance. C'est ce que j'avais pointé là. Oui. Seigneur, faites que ma petite copine ne soit pas une prostituée, mais soit une bonne fille. Et la parole compulsionnelle était il va garder cette bonne fille pour son propre image, donc le Seigneur en question, le Christ. Comme dit Lacan, l'obsessionnel cherche le complément de ce qui lui est nécessaire pour se constituer un désir dans le fantasme du Dieu Tout-Puissant, mis en place l'idéal du moi. Ainsi Henri est-il sans cesse en proie aux idées de Dieu. Ernest Jones dit dans son article que le patient s'est trouvé guéri au bout de 5 mois, 3 séances par semaine, et que cette guérison se serait maintenue 2 ans après environ. Ce qui est dommage, c'est que Ernest Jones ne dit pas très bien comment il a fait, parce qu'il propose un catalogue de toutes les pensées obsédantes qui font tourner sa copine, le Christ, Dieu, sa mère, enfin tout. Et puis, à la fin de l'observation, il dit voilà. On voit en tout cas l'omniprésence de ce fantasme du Dieu Tout-Puissant. Et au fond, on voit bien que cet Henri, c'est un croyant. Et comme dit Lacan, je terminerai là-dessus, athée, dit Lacan, serait celui qui aurait réussi à éliminer le fantasme du Dieu Tout-Puissant. Henri se trouve sous le regard permanent du Dieu Tout-Puissant, qui interfère constamment dans son rapport à l'autre, dans ses pensées. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, mais je vais vous laisser réfléchir à vos questions en même temps que je vais peut-être en adresser à chacun d'entre vous. Donc Véronique Robert nous a montré comment le point d'angoisse ne correspondait pas au point du désir, notamment le point du désir situé par rapport à la MAM dans la question de l'objet oral, là où le point d'angoisse est rapport au manque de la mère possible, donc se situe sur la mère et par rapport à son manque. Et je me suis posé la question de, tiens, et si la mère n'est pas manquante ? C'est-à-dire, si au fond, on se trouve face à une mère qui veut éviter à tout prix qu'elle soit manquante pour son enfant, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce point du désir et de ce point d'angoisse ? Est-ce que... on pourrait y voir une superposition possible, par exemple. Enfin, c'était une question, mais peut-être elle est formulée sur le vif. Mais en tout cas, que se passe-t-il quand, voilà, une mère, pour son enfant, n'est pas manquante, ou fait en sorte qu'elle soit manquante le moins possible, dans cette dialectique du point du désir et du point d'angoisse. Pour le dire autrement, si il n'y a pas le nom du père sur le désir de la mère. Alors, je vais peut-être passer à une question pour Jean-François. Peut-être redévelopper, parce que c'est quelque chose qui m'a posé question, cette question de l'inhibition, oui, du désir. Inhibition du désir par introduction d'un autre désir. Voilà. C'est un point qui me semble un peu complexe. Moi, je ne sais pas s'il y a moyen de revenir sur ce point-là, peut-être par un biais clinique ou autrement. C'était une de mes questions. Et Et donc, aussi une autre question qui m'était venue, donc l'obsessionnel, d'après ce que tu nous as expliqué, si j'ai bien compris, dit à l'autre, qu'est-ce que tu me demandes ? Donc il recouvre la question du désir de l'autre par la question de la demande de l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu me demandes au lieu de qu'est-ce que tu désires ?
Voilà, au lieu de pour se soustraire à l'intime du désir de l'autre. C'est comme ça que j'ai compris ça. Survient alors la demande de l'autre.
Oui, je réfléchis à votre question. Je me demande comment dire. Enfin, donc vous me posez une question plus sur ce qu'il en est dans la psychose. C'est un peu ça votre question. Où on dit donc on dit que l'enfant a l'objet dans sa poche. Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai du mal à imaginer une mère qui n'est pas manquante, qui est toute présente. Ça me paraît. J'ai du mal à imaginer ça. Bon, parce que dès qu'on a on rencontre un bébé, franchement, pour le comprendre, pour répondre adéquatement, enfin, c'est pour qu'il n'y ait pas de faille. Entre l'appel, le cri et la réponse de la mère. Donc la mère est pour moi toujours manquante. Enfin je me trompe peut-être, mais je le conçois comme ça. Je pense que c'est plutôt justement, comment dire ? C'est difficile votre question. Je dirais, comment dire ? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'enfant psychotique est beaucoup plus confronté au manque de l'autre. Enfin, je le dirais comme ça. Je me trompe peut-être, mais moi, faire le schéma. Moi, je ferais disparaître l'autre et je laisserais plutôt l'enfant et l'objet sans autre, sans réponse, sans symbolique, sans semblant. Parce que c'est le semblant qui fait la difficulté du sujet névrosé. De l'enfant névrosé qui se regarde dans le miroir et qui se retourne vers sa mère en se disant c'est moi ça, mais c'est quand même pas tout à fait moi, il faut que toi tu me le dises. Et l'enfant schizophrène au miroir, il va pas voir un moi, une unité, il va voir son pull, sa joue, son nez, enfin des morceaux. Je sais pas si je réponds très bien à votre question, mais voilà. J'ai l'impression que dans la psychose, le A barré, il se rabat sur le petit A. Enfin, voilà. absence de l'autre. Enfin voilà, je ne sais pas si je réponds mieux à votre question. Mais... Je dirais ça comme ça.
Alors, l'inhibition. Donc, ce que j'ai voulu expliquer, c'est l'interférence d'un désir qui vient parasiter un autre désir. Et donc, dans la question de la relation à l'autre, ce qui vient interférer pour inhiber ce mouvement-là, c'est la question de retenir. C'est la question du don à ne pas... de cette cession sur laquelle ne pas céder. D'où ce rabattement du désir anal, comme le formule Lacan, sur la relation avec la femme. Il y a quelque chose qui vient se rabattre dessus. Et qui est de l'ordre céder, au sens d'une cession, hein, ne pas céder. Moi, j'ai compris ça comme ça. Mais par contre, dans l'observation, bon, c'est du John, c'est du 1913, c'est avant inhibition symptôme angoisse. Lui présente l'inhibition du bonhomme à partir du moment où il croit trouver dans sa copine, au fond, sa mère. Et c'est là que tout coince, à ce moment-là. Il y a un exemple qui se balade dans les écrits, l'exemple de Lacan, l'inhibé de la page blanche, là, ou quelque chose comme ça. Celui qui est dans cette inhibition à écrire et qui se trouve au fond avec devoir lâcher quelque chose qui du même coup n'est plus qu'un étron. Hein, et Lacan évoque dans ce passage-là l'étron de son fantasme. Là où justement, qu'est-ce qu'il en dit quelque chose, mais plus ça en tête à ce moment-là, là où justement les écrits, ça relève de quelque chose, d'un autre niveau, d'un ordre d'une sublimation, et puis voilà que c'est l'aspect, au fond, tâche, déchet qui surgit sur la feuille.
Vos questions ? Vos réactions, oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire donc ce patient donne à l'analyste ses pensées ? Cède ses pensées.
Cède ses pensées.
Enfin, puisque la question est de savoir comment ça a opéré.
Est-ce qu'il cède ses pensées ? Oui, mais tu sais, c'est gratiné. Hein. Moi, la première fois que j'ai lu ça, il y a longtemps, quand ceci est sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte ? C'est pas possible d'abord d'en arriver à la réalisation. Mais tu as quand même une pensée qui, enfin une analyse des rêves, par exemple, une série de rêves, c'est du même acabit, ce sont des choses comme ça. Et il se livre à des associations autour de ses rêves, et tout revient toujours à la même chose. Le sexe, Dieu, la copine, maman, l'organe, tout ça. Parfois, tu es avec un obsessionnel et tu as l'impression qu'il pense tout haut devant toi. Et est-ce qu'on va dire qu'il cède ses pensées pas toujours facile de d'interférer là. Pas tout. Il me semble.
Oui, moi je suis assez d'accord avec la scission de la pensée. C'est même le côté, il faut dire, un peu miraculeux. Et ciel bleu. Un côté qui tourne tout seul, parfois une analyse obsessionnelle. Si elle est bien conduite, au sens vraiment de laisser ce vidage se faire, parce que c'est vraiment ça. Hein, on voit d'ailleurs au passage ce que c'est que la pensée, pour Lacan. Hein, faut pas croire qu'avec la pensée, on accède à quelque dignité ni l'élaboration que ce soit, pas du tout. C'est plutôt. C'est une façon de jouir, et ce qu'il s'agit de faire en analyse, c'est que le sujet se sépare de ça. Et alors effectivement, si il y a vraiment quelque chose de l'autre, vraiment, on pourrait dire ça d'un vidage. Enfin, moi, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire, ce qui fait que l'analyse obsessionnelle peut vraiment, il y a quelque chose, pour une certaine part, il y a vraiment l'art de ne pas aller, comme tu dis, interférer avec ça. De laisser ce vidage se faire, justement, en prenant acte, point, c'est tout. Il y a pour une part, c'est pour ça que c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose de l'analyse obsessionnelle, c'est quelque chose qui va un peu tout seul, pour une part. Hein? Il faut vraiment laisser cette séparation se faire. Hein? Mais il faut œuvrer dans ce sens-là. Donc ne pas nourrir ça, ne pas alimenter ça. Mais les pensées de l'obsessionnel, il faut vraiment que. Pour faire en sorte qu'il s'en sépare. Enfin, moi, je dirais ça... Pardon ? Voilà. Voilà. Oui, oui. Mais pour peu qu'on soit suffisamment obstiné, qu'on pousse, c'est quelque chose qui va quand même d'une façon assez spontanée. Le mouvement de l'analyse, en fait, amène à l'obsessionnel à céder ses pensées, à céder ses pensées. Là, c'est peut-être pour ça que Jones, à l'époque, n'avait pas tout à fait les moyens d'expliquer ce qui se passe, mais si les choses sont bien menées, d'ailleurs, la façon de mener l'analyse, après tout, chez certains à l'époque dans l'IPA, un certain nombre de séances par semaine, etc., était quand même très articulée selon un mode de fonctionnement obsessionnel, une grande routinisation, etc. Mais il y a un art de les recevoir pour ne pas évidemment les faire prospérer. Alors, cela dit, il y a une phrase dans la... Tu l'as sans doute dit, mais c'est bien de souligner sur le rapport de l'obsessionnel à l'objet anal. Lacan dit aussi, parce que quand on écoute tout ça, on pourrait se dire, dans le fond, quel dégoûtant personnage. Alors que l'obsessionnel est quand même celui, un bon obsessionnel, en général, il n'est pas rare que ce sont des gens quand même qui font partie de l'intelligentsia, etc. Ils sont plutôt propres sur eux, cultivés, sont de charmants garçons. Ils ont même une vie sexuelle plutôt douillette, disait Lacan. Alors si on écoute tout ça, on dit douillette. Et pas du tout. Lacan précise aussi justement que cette présence de l'objet anal va tout à fait de pair avec les côtés les plus suaves. Parce que c'est la présence de l'objet comme cause du désir. L'objet anal n'est pas l'objet visé par le désir. Là, comme tu dis, il est prêt à idéaliser... Il est prêt à idéaliser tout le monde, mais seulement le côté cadeau, le côté don, c'est une problématique qui est... Lacan va chercher ça du côté de l'éducation du corps du sujet. C'est là qu'il va saisir que la demande de l'autre est quelque chose qui est de l'ordre de l'objet anal. Mais il précise aussi, c'est vraiment c'est la cause d'un désir. C'est pas,
oui, oui.
C'est pas ce que le...
C'est pas l'objet visé. C'est pas la visée du désir. C'est la
voilà.
Cause.
D'ailleurs... C'est le seul objet du désir qui existe, c'est l'objet cause, l'objet que le désir cherche, ça c'est n'importe quoi. ça n'a pas de valeur. C'est l'objet-cause qui est important. C'est important de voir que l'amour, le don, l'oblativité, tout ça, c'est finalement, tout ça, c'est anal. C'est bien de le dire aussi, parce qu'évidemment, ça...
Ce qui est particulier dans le cas 2, c'est qu'il il met en pratique. Parce que si tu prends un grand obsessionnel, précisément, Georges Bataille, tu as toute son œuvre licite sur le sexe, la mort, la part maudite, les larmes d'Eros et tout ça, qui sont des articulations, des théorisations très intéressantes. Et puis à côté de ça, il y a l'œuvre sous le manteau, scandaleuse, qui là, au fond, c'est un peu des choses pareilles. Hein. Sauf que là, on est dans la fiction, dans le romanesque. Voilà, donc il a mis ça au niveau de l'écriture, au niveau d'une fiction et tout. Tandis que ce qui est très frappant chez celui-ci, c'est que il est les pieds dedans. Au lieu de Bataille qui imagine des trucs, Madame Edvarda, des trucs, etc. Je ne suis pas assez familier. Je ne suis pas familier.
Le style de l'époque qui est assez. La fois de passer par là, quand on a parlé de tout ça, c'est évidemment.
Oui, c'était une question pour Jean-François Lebrun. À un moment donné, tu disais que le sujet obsessionnel couvre le désir de l'autre par la demande de l'autre. Qu'est-ce que tu me demandes ? Alors, si on part de la formule de Lacan, mais on a déjà un petit peu répondu par Philippe Elbois, le désir du sujet, c'est le désir de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que le désir du sujet obsessionnel serait la demande de l'autre ? Autrement dit, que l'obsessionnel se ferait objet de la demande de l'autre, ce qui expliquerait tous les idéaux, les principes et le côté clean que peut avoir le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, moi je dirais pas ça. Non, il y a deux dimensions. Faire en sorte que l'autre lui demande et rabattre le désir de l'autre sur la demande. Pour échapper à la question du désir, on rabatte ça sur la demande à laquelle on répond, ce qui laisse le sujet indemne côté désir.
Comment ? Absolument. Absolument, l'obsessionnel, pour maintenir son désir, il a à la fois peur du désir de l'autre, c'est évidemment l'angoisse, comme tu dis, et à ce niveau-là, il est moins charmant. Lacan fait aussi remarquer dans ces passages-là que elle peut demander, comme tu dis, ça, elle peut demander, c'est toujours bien. Mais pour ce qui est de désir, la Tintin, et d'ailleurs pour ce qui est de tuer le désir de l'autre, ça, l'obsessionnel en général, il s'y entend, et il y a une façon, comme tu dis, très subtile, très raffinée, d'entasser le désir de la dame en question, de la dame en cause, quand c'est une dame, eh bien, c'est effectivement de la couvrir de cadeaux, enfin bon, de rabattre ça sur tout ce qui est du côté de la demande. Mais parce que l'obsessionnel était si... Le désir, finalement, il s'agit aussi que ça reste le sien. Il veut aussi protéger son désir. Mais alors, si on fait de l'hystérique, alors à ce niveau-là, il faut aussi réhabiliter l'obsessionnel, peut-être. C'est que on dit que l'hystérie, c'est comme une structure clinique où le désir est mis au pinacle. C'est pour ça que, dans le fond, elle cultive le désir insatisfait. C'est un désir qui ne doit pas être satisfait parce que le propre du désir, c'est le manque. Il s'agit donc que le désir soit satisfait. Mais l'obsessionnel, à ce niveau-là, est aussi très charmant. C'est qu'il s'agit que le désir, pour qu'il reste un désir, il s'agit qu'il soit impossible. Et d'une certaine façon, on n'a pas le temps de développer ça, mais l'homora, toute la construction de l'homora, c'est finalement se construire un désir impossible de remboursement. Il y a toute une transe où finalement son désir apparaît comme étant impossible. Ce qui est évidemment un effort à maintenir. C'est que le sujet hystérique comme obsessionnel, il se défend grâce au désir. Ce que vous avez indiqué tous les deux va aussi dans ce sens-là. C'est qu'on voit vraiment que le désir est une défense contre une jouissance. Enfin, c'est encore un autre débat, mais enfin, c'est vraiment... on vit dans le désir et grâce au désir. Et donc, il s'agit de le maintenir insatisfait ou impossible. Mais...
Une petite question qui est peut-être une grosse vacherie, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à la partenaire d'un homme obsessionnel par rapport à la question du don, justement? Est-ce qu'elle a intérêt plutôt à accepter les dons ou est-ce qu'elle a plutôt intérêt à refuser les dons pour essayer de relever la problématique de l'inhibition chez son partenaire? Est-ce qu'il y a un lien direct entre le degré d'inhibition et le degré du don? Autrement, enfin, oui. Question facile et très très difficile en même temps.
Il y a une phrase de Lacan, c'est dans le séminaire 11, je crois. Je te demande de me refuser ce que je t'offre,
oui, voilà.
Parce que c'est pas ça. Je crois que c'est dans le séminaire 11, c'est ça, hein? Plus loin encore.
Séminaire 20.
20 alors.
Ah oui, oui. Oh.
De toute façon, le sujet obsessionnel, il se rend bien compte que ces dons, on en fait peu de cas. Bon.
Il me semble.
Parce que ça, le statut des troncs aussi, hein, je veux dire, tous ces dons qui arrivent, finalement, c'est du déchet. Enfin, je sais pas si...
Voilà, tout à fait.
Même le désir qui est une forme... Bon, allez, on va dire ça rapidement. Une forme mineure de l'amour, même s'il faut après ça différencier, mais... si le désir est une forme mineure de l'amour, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du manque. Et en tout cas, c'est vraiment faire passer le sillon d'un manque et donner ce qu'on n'a pas. Il insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, ici, dans ces séances dont on parle, du côté amour, comme tu disais, Jean-François, là, on est du côté de l'idéalisation. C'est aussi un don. Et donc il vaut mieux, là, vraiment, pour le coup, que la femme ne tombe pas là-dedans. C'est qu'il s'agit de donner, l'obsessionnel donne à sa dulcinée juste une image idéale de lui-même, sans laquelle il a l'idée qu'elle ne pourrait pas vivre.
Ce qui lui permet de se soustraire, là, derrière.
Absolument.
Derrière,
voilà.
Ce jeu.
Absolument. Donc là, Lacan, pour ce qui est du don d'objets, etc., les cadeaux... Il est assez radical, il n'en faut pas. Il faut même d'ailleurs remarquer qu'au niveau de l'idéalisation, eh bien, c'est la négation du désir. Et Lacan fait remarquer que les femmes, dit-il, elles ne s'y trompent pas. Hein, l'idéalisation, idéaliser une femme, ça ne... Disons que ça ne... Ça ne marche pas très longtemps, enfin, on peut discuter. Mais...
Alors, je voudrais remercier nos conférenciers.